Les marchandes de sable, Brunefeuille, Le prince se marie et autres contes inclusifs. Bonne chance, Bad Bayan, de Effie. Il était une fois un petit garçon tzigane à la peau chocolat et aux yeux bruns qui s'appelait Bad Bayan. Au début de mon histoire, il devait avoir dans les 8 ans. Par un triste jour, Bad Bayan dit à son père « Quand maman revient-elle ? Lorsque tu verras quelque chose de beau, ta maman y sera et te rendra ton regard. C'est son rire qui résonnera depuis les étoiles et c'est son sourire que tu verras dans les fleurs. Te souviens-tu du merle que nous écoutions ensemble dans la forêt ? À présent, ta maman chante avec lui. » Il serra son fils contre lui et s'essuya les yeux avec sa manche de pullover. Le temps passa. Le père de Bad Bayan fit la connaissance de Francisca, une jolie femme qui semblait quelqu'un de bien, et il ne tarda pas à l'épouser. Elle avait 2 fils jumeaux qu'elle gâtait vraiment beaucoup, mais elle n'aimait pas Bad Bayan. Pourtant, le garçon faisait de son mieux pour plaire à sa belle-mère, en vain. « Est-ce qu'elle m'aimerait si j'avais une belle peau blanche comme elle et ses fils ?» se demandait-il. Son père partit bientôt pour un monde meilleur, le cœur brisé par le chagrin. Bad Bayan était aussi en colère contre son père qui l'avait laissé seul. « Papa, où es-tu maintenant ? Reviens !» cria-t-il amèrement un soir. Alors un sourire haut d'oreiller surgit de Dieu sait où. Il grimpa sur l'épaule de Bad Bayan, lui donna de petits coups de museau et lui chatouilla le cou avec sa moustache. Le garçon le posa doucement au creux de sa main. Les 2 bandes noires sur le pelage gris de la souris ressemblaient aux 2 mèches noires dans la chevelure grisonnante de son père. Cela réconforta un peu Bad Bayan. « Je t'appellerai Chado, » dit-il en serrant la petite bête contre lui. C'était le surnom de son père. « Tu veux bien rester avec moi ?» Le sourisseau le regarda et hocha la tête. « Mais il faudra faire attention à ce que personne ne te voit, » avertit le garçon. Après la mort de son père, Francisca transforma la chambre de Bad Bayan en chambre d'amis et le relégua dans l'ancienne buanderie. Le temps passant, les enfants devinrent de beaux jeunes gens. Les jumeaux Andris et Boton couraient vers les filles des environs. Mais cela n'intéressait pas Bad Bayan. Le soir, il préférait lire ou écouter de la musique, ce que sa belle-mère ne laissait pas passer sans rien dire. « Prends exemple sur tes frères. Ils amènent à la maison des filles plus belles les unes que les autres pour me les présenter. » Et toi, tu n'as encore jamais eu de petite amie. » Dans ces moments-là, le sourire sot faisait toujours son apparition, comme s'il sentait que son ami avait besoin de lui. Les jours, les semaines passèrent jusqu'à ce qu'Andris revienne à la maison, tout excité par la nouvelle qu'il rapportait. « Zeke, le fils des Lieber, va donner un bal où il invite tous les jeunes de 17 ans de la région, » s'écria-t-il. « Fasse le ciel que vous y trouviez un beau parti !» applaudit Francisca. Bad Bayan était également heureux de cette nouvelle, car il se passionnait pour la musique. Il aurait bien aimé assister à cette soirée. « Andris, Boton, prenez vos affaires !» ordonna leur mère. « On va vous acheter des vêtements neufs. Vous ne pouvez pas aller au bal comme des va-nu-pieds dans vos habits de l'an dernier. » Et ignorant son beau-fils, elle sauta dans la voiture, suivie de ses fils. De retour à la maison, Andris et Boton se pavanèrent devant la glace dans leurs nouveaux atours. Bad Bayan prit son courage à 2 mains et affronta sa belle-mère. « Francisca, j'aimerais aller au bal. Tu m'achètes aussi une tenue de soirée ?» Le garçon passait d'un pied sur l'autre, vêtu de sa veste et de son pantalon trop court qu'il essayait en vain d'allonger en tirant dessus. « Tu ne penses tout de même pas que je vais encore dépenser une fortune pour toi. Tu peux déjà t'estimer heureux que je t'entretienne. Tiens, ceux-là sont assez grands. » dit-elle en lui lançant les vieux vêtements de ses fils, 2 fois trop grands pour lui. Le garçon se précipita dans sa petite chambre, bouillonnant de rage. Il pleurait rarement, car les larmes lui faisaient honte, même si personne ne le voyait. Tout le monde lui disait que les vrais hommes ne pleurent pas. Or, il voulait être un vrai homme, un homme fort. Chado grimpa sur son épaule, et la voix de son père murmura à son oreille. « Allez, tu peux pleurer, les larmes nous guérissent et nous rendent forts. » Alors des perles brillantes roulèrent sur le visage de Bad Bayan. Le grand jour arriva. Andris et Boton se pavanaient depuis le matin devant la glace avec Francisca, qui se préparait à assister à la fête du Nouvel An donnée par une famille voisine des Libères. Bad Bayan rêvait que sa belle-mère change d'avis et lui permette d'aller au bal. Ses frères ne le savaient que trop bien. « Bati, toi aussi tu voudrais un beau costume ?» demanda Andrés pour le taquiner. « Viens, j'ai quelque chose pour toi, » enchaîna Boton d'une voix mielleuse. Il ramassa alors trois cailloux qu'il lui lança à la figure. « Et quand on rentrera, que nos chambres reluisent de propreté, espèce de souillon !» lui cria-t-il avec un rire mauvais. Bad Bayan savait que s'il ne faisait pas le ménage dans les chambres de ses frères gâtés pourris, il s'exposait à de nouvelles tracasseries. S'il le faisait, il le laisserait en paix un petit moment. Il ramassa les trois cailloux sans savoir pourquoi, les lança sur sa table de chevet, puis mit sa chanson préférée et se jeta sur le lit pour l'écouter. Chado apparut, s'installa au creux de son épaule et hocha la tête au rythme de la musique. Bad Bayan se retrouva vite de meilleure humeur. Il mit le chiffon en poussière pour faire le ménage, quand il remarqua que les trois cailloux commençaient à briller d'un éclat jaune. Il effleura le premier qui répandait une agréable chaleur, et à sa grande surprise, il vit en surgir un superbe smoking, une chemise bleu clair, d'élégantes chaussures noires et un nœud papillon. « Oh !» Il toucha avec précaution le deuxième caillou et hop, une magnifique limousine bronze apparut devant la maison. « Mince alors !» exulta-t-il. Brûlant de curiosité, il toucha le troisième caillou d'où bondit un personnage singulier, un rhum moustachu portant un gilet brodé, un pantalon vert foncé et un petit chapeau rond. « Tavès Baxtalo, salut Bad Bayan, quel beau gars tu fais !»« Mais qui es-tu » demanda le garçon stupéfait. « Tupka, à ton service, je suis ton arrière-arrière-arrière-grand-oncle. »« Mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle ? Comment est-ce possible ?»« Après ma mort, j'ai repris du service sur Terre et j'ai pour mission de protéger les jeunes générations de notre famille. J'ai vu que tu avais des ennuis, alors me voilà !» La petite souris salua Tupka par des bons enthousiastes. Hey, « Hé, mon vieux pote, tape-moi 5 !» s'écria Tupka en tendant la main à Chado. Bad Bayan croyait de moins en moins qu'il ne rêvait pas. « Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vas aller au bal, oui ou non ? J'aimerais beaucoup. Alors secoue-toi et habille-toi. Il faut que je fasse les chambres de mes frères, sinon ils m'embêteront encore plus que d'habitude. Oh là là, où est passée ta bravoure tzigane, mon petit gars ?» Bad Bayan regarda son grand-oncle en écarquillant les yeux. Il ne comprenait pas de quoi il parlait. « Un jour, on y reviendra, » concéda Tupka. Puis il fit claquer ses doigts et le chiffon dépoussiéra rapidement les chambres. Il claqua deux fois des doigts, l'aspirateur surgit du placard et se mit aussitôt à avaler les moutons. « Eh ben, toi alors, tu sais en faire des choses !» dit Bad Bayan avec admiration. « Attends de voir la suite !» dit Tupka. Il claqua trois fois des doigts, le flacon de détergent se mit à vaporiser et à sa suite, le torchon s'empressa d'essuyer les vitres. Le garçon suivait leur numéro avec un sourire béat, si bien que son oncle lui dit « Si tu restes ici à bailler aux corneilles, tu vas rater la fête. Grouille-toi » Bad Bayan s'habilla prestement. Tupka l'examina de la tête aux pieds. « Il manque quelque chose, » dit-il d'un ton pensif. « Je sais, la barbe !» Puis, avec quelques claquements de doigts, il décrivit une spirale dans l'air. En quelques instants, le visage du garçon se couvrait d'une jolie barbe mousseuse. « Voilà, comme ça personne ne te reconnaîtra, pour sûr !» approuva Tupka d'un air satisfait. Puis en un clin d'œil, il avança la limousine bronze et ils roulèrent jusqu'à la maison des Libères sur la colline. Avant que le garçon ne descende, Tupka lui dit « Débrouille-toi pour être avant minuit près de la voiture. Après, le charme sera rompu et on te reconnaîtra. C'est bon, je serai là à temps. » La demeure des Libères était vaste et élégante, ornée de tentures en brocart blanc tissées de fils d'or, de délicats bouquets de soie et de dentelles, de palmes et d'énormes fleurs. Dans la cour, des poissons nageaient dans un magnifique bassin et un célèbre groupe de rock jouait en live. Bad Bayan, transporté de joie et métamorphosé par sa tenue de soirée qui lui allait à merveille, entra dans la salle avec assurance et apprécia le cocktail servi en guise de bienvenue. Le clou de la soirée était un karaoké, auquel Bad Bayan participa lui aussi. Il choisit une vieille chanson populaire que sa mère lui avait apprise et dont le groupe de rock joua une version moderne. Dès que le garçon commença à chanter, un tel silence se fit qu'on pouvait même entendre une mouche voler. Bad Bayan, dont la voix emplissait la salle, éveilla l'intérêt de Zeke Liber. À la fin du numéro salué par une tempête d'applaudissements, celui-ci se dirigea vers le chanteur à la voix de Rossignol, mais à son grand regret, il le perdut de vue. Bad Bayan devait prendre ses jambes à son cou pour partir avant minuit. Dans sa hâte, il avait perdu son nœud papillon qui s'était desserré, et Zeke le ramassa près du portail décoré de fleurs. Il essaya de découvrir qui était ce garçon qui avait fait battre son cœur dès le premier instant. En vain, car bien sûr, personne ne le connaissait. Tupka parvint à reconduire son jeune parent juste avant que la limousine, le costume chic et la barbe ne disparaissent en même temps que lui, comme s'ils étaient apparus. Bad Bayan dormait depuis longtemps quand ses frères et sa belle-mère revinrent à leur tour. En entrant dans leur chambre, les jumeaux restèrent bouche bée devant la propreté étincelante. Le lendemain, ils recommencèrent à asticoter leurs frères selon leur habitude. Figure-toi qu'il y a eu un karaoké hier et un type vraiment doué à chanter, mais personne ne le connaissait. Bad Bayan s'efforça de prendre un air indifférent pour ne pas se trahir. Mais en réalité, pour la première fois de sa vie, les tracasseries glissaient sur lui sans l'atteindre. Les jours, les semaines passèrent et le fils Liber donna un autre bal. Bad Bayan espérait en secret que les cailloux magiques l'aideraient de nouveau et qu'il puisse revoir son arrière-arrière-arrière-grand-oncle. Cette fois encore, ses frères ne manquèrent pas de l'asticoter. « Ça va être super au bal. Il y aura des filles plus jolies les unes que les autres. Mais quel dommage, tu ne peux pas venir » ricanèrent-ils. « Que toutes les pièces de la maison soient convenablement nettoyées quand nous rentrerons !» cria Francisca depuis la porte. « Convenablement ? Elle qui ne s'est jamais comportée convenablement avec moi !» pensa Bad Bayan. Et il retourna dans sa chambre s'absorber dans la musique. Chado, blotti au creux de son épaule, hochait la tête au rythme de la chanson. Le souriceau aimait la musique au moins autant que le garçon. Peu de temps après, les cailloux se remirent à briller comme Bad Bayan l'avait espéré. Cette fois, il rayonnait d'une lueur orange et en touchant le premier, il sentit une chaleur beaucoup plus forte que la fois précédente. Dès qu'il passa la main sur les veines de la pierre, un smoking en surgit avec une superbe chemise rose, une paire de chaussures élégantes et un nœud papillon. Quand il toucha le deuxième caillou, une limousine argentée apparut devant le garage. Bad Bayan toucha prudemment le troisième caillou d'où Tupka émergea d'un bond. « Oh, j'ai le cou raide !» dit-il, et après s'être copieusement étiré, il salua son petit-neveu. « Ça fait un bail que je ne t'ai pas vu, mon petit pote. Tape mon 5 !» Il lui tapa dans la main, puis salua Chado de la même manière. « Quoi de neuf ? Ne me dis pas que cette bande de m'as-tu vu t'a encore laissé à la maison pour faire le ménage ?» Le garçon acquiesça à contre-cœur. « Ne crains rien tant que tu me vois !» s'écria Tupka en claquant fort des doigts. Alors, le plumeau posé sur la table se mit à danser, faisant tout briller sur son passage. Un double claquement de doigts mit en marche l'aspirateur, qui nettoya toutes les pièces de la maison. Pour finir, Tupka fit claquer ses doigts 3 fois et peu après, les fenêtres étincelèrent. « Et voilà » conclut-il d'un air satisfait. « Bon, on ne va pas rester ici toute la soirée. Habille-toi, je t'attends dans la limousine. » Le garçon se dépêcha de s'habiller, puis il sauta dans la voiture à côté de Tupka et ils arrivèrent bientôt à la maison des Libères. Tupka avertit son petit-neveu. « N'oublie pas que tu dois être revenu avant minuit, car le charme ne dure que jusqu'à cette heure-là. »« je sais, » répondit Bad Bayan. « Attends, on a failli oublier quelque chose d'important. » Le garçon, effrayé, se toucha le visage et ils dirent en même temps « La barbe !» Tupka claqua joyeusement des doigts en dessinant une spirale dans l'air. Et comme la fois précédente, une jolie barbe couvrit aussitôt les joues de Bad Bayan. « Voilà, maintenant tu peux y aller. Amuse-toi bien !»« Merci !» cria le garçon vers la voiture qui s'éloignait. Cette fois encore, la soirée se déroulait dans une ambiance formidable. La partie la plus excitante de la fête, le karaoké, arriva. Le public, en particulier Zeke, le maître de la maison, était curieux de voir si le garçon à la voix prodigieuse reviendrait. Pour le plus grand plaisir des invités, le mystérieux inconnu était de retour sur scène. Tout le monde était captivé par son talent, et pendant quelques minutes, la salle chanta à l'unisson. On aurait dit que les différences entre les uns et les autres s'estompaient de note en note, jusqu'à disparaître complètement. Soudain, Bad Bayan remarqua dans la foule un regard bleu particulièrement affectueux, et tout le reste autour de lui s'effaça. Ses yeux brillaient sous la tignasse blonde de Zeke Liber. Le public récompensa sa performance par une ovation et des applaudissements nourris. Cependant, Le maître de maison n'était pas seulement captivé par la voix du garçon. Sans pouvoir se l'expliquer, il sentait qu'il devait lui parler. C'est précisément pourquoi il le suivit du regard lorsqu'il descendit de la scène. Mais cette fois encore, il le perdit de vue dans la cohue. Il ne trouva qu'un bouton de manchette que le garçon avait laissé tomber devant le portail. « Nous nous reverrons bientôt », pensa Zeke, se réjouissant à l'avance de cette prochaine rencontre. Toubka ramena son petit-neveu à la maison à minuit pile, le salua rapidement et disparut en même temps que la barbe et l'élégante tenue. Le souriceau attendait son ami sur le lit, dressé sur ses quatre pattes arrière. « Ah, Tchado, c'était bien, mais tellement bien. Figure-toi que le public a chanté avec moi. Tu peux imaginer cela ?» La petite souris répondit en couinant et en hochant la tête avec force. « Et ce garçon ? Ses yeux bleus ?» Cette fois encore, Bad Bayan dormait paisiblement quand sa belle-mère et ses frères revinrent à la maison. Le lendemain matin, Francisca toisa encore son beau-fils avec méfiance. Boton et Andris recommencèrent à la sticoter. Si tu savais comme le mystérieux chanteur avait été applaudi, si tu savais. Bad Bayan s'efforçait encore d'avoir l'air aussi indifférent que possible, de peur de se trahir, tandis qu'il exultait intérieurement. Si vous saviez. Le temps passa, et bientôt les jumeaux apprirent que le fils Lieber donnait une autre soirée. Selon leur habitude, ils apportèrent la nouvelle à leur frère en se moquant de lui. Qu'est-ce que tu fais samedi soir, Bailly, Bati ? Demanda Andris. Nous, on va au bal. Fanfaronna Boton. Ce pauvre Bad Bayan n'a rien à se mettre. Il ne peut pas venir faire la fête avec nous. Attendez seulement de voir la fin, marmonna le garçon entre ses dents. Mais ils ne l'entendirent probablement pas. Le samedi soir arriva et tout le monde trouva normal que Bad Bayan reste à la maison. Sa belle-mère, qui se préparait aussi à aller au bal, le pourvut cette fois encore généreusement de corvées. Tu auras le temps de nettoyer la maison de la cave au grenier, mais pas en dilettante comme la dernière fois, grappit-elle. Puis elle éclata de rire et sortit en claquant la porte. Bad Bayan écouta quelques instants décroître le claquement de ses talons aiguilles, puis il choisit son morceau préféré et s'allongea satisfait sur son lit, avec Tchado au creux de son épaule. Cette fois, il n'était ni furieux ni déçu. Il savait que des choses extraordinaires l'attendaient encore ce soir-là, comme la dernière fois. Tandis qu'il savourait la musique, détendu, les cailloux sur la table se mirent à rougeoyer. Il toucha prudemment le premier. La pierre était très chaude. Il faillit se brûler. Un smoking, une chemise blanche, une paire de chaussures élégantes et un nœud papillon apparurent. Il toucha la deuxième pierre et hop, une limousine dorée atterrit devant le garage. Et de la troisième pierre bondit son grand-oncle, avec sa moustache fringante et son petit chapeau rond. Bad Bayan, mon cher petit, Toubka, je t'attendais. « Dis-moi donc ce que tu es censé faire au lieu d'aller à la soirée. »« Le grand nettoyage de la cave au grenier, » fut la réponse laconique. « Voyons cela, » dit Toubka, et en quelques claquements de doigts, une brigade de nettoyage s'empressa de faire régner une propreté étincelante. « Ah, avant que je l'oublie, » ajouta-t-il. En quelques claquements de doigts, il dessina une spirale dans l'air et fit pousser une barbe sur le visage de son neveu. « Grouille-toi et t'habiller, je t'attends dehors. » Le garçon revêtit sa tenue de soirée et en quelques minutes, il était en voiture. Ils arrivèrent bientôt devant la maison des Lieber. Tu connais la règle, le charme dure jusqu'à minuit. Alors bonne chance, Bad Bayan. Une musique entraînante s'entendait dès le portail orné de fleurs. Bad Bayan entra et savoura son cocktail. Zeke chercha en vain toute la soirée le mystérieux étranger à la voix d'or, car notre ami était parvenu à se fondre dans la foule. Il était sur scène quand Zeke l'aperçut enfin. Ce soir-là, Bad Bayan choisit une chanson émouvante qu'il chanta à l'intention du maître de maison. Celui-ci avait décidé qu'il ne quitterait des yeux à aucun prix l'inconnu à la voix d'or. Pour être sûr de son affaire, il sauta sur la scène et ils continuèrent à chanter ensemble. Le public bissa le duo qui recommença sa prestation. Éperdu de bonheur, Bad Bayan avait oublié de regarder l'heure. Il ne restait plus que quelques minutes avant minuit, si bien qu'il se dirigea vers la sortie aussi vite qu'il put. Aux aguets, Zeke parvint à le suivre et à le rattraper au portail. Il lui prit le bras et ne le laissa pas partir. Minuit sonna, et Bad Bayan se retrouva sans barbe et en haillons devant son élégant compagnon. Il avait honte. « Je suis désolé. »« Il n'y a pas de quoi. Je suis heureux de faire enfin ta connaissance. »« Je m'appelle Zeke, » dit-il en tendant la main. « Dans ce cas, je suis moi aussi très heureux. Mon nom est Bad Bayan. Les deux garçons discutèrent toute la nuit. Ils avaient autant de choses à se dire que des vieux amis qui ne se sont pas vus depuis un millier d'années. À leur retour, Andris, Boton et Francisca ne virent Bad Bayan nulle part dans la maison, qui reluisait de propreté. Ils ne tardèrent pas à entendre dire que Zeke Liber avait trouvé l'homme de sa vie, qui plus est en la personne de Bad Bayan. Ils en furent verts de jalousie. Quant aux deux jeunes gens, ils célébrèrent de fabuleuses noces. Peut-être vivent-ils encore dans un immense amour, dans le bonheur et l'abondance, s'ils ne sont pas morts. Le prince se marie, inspiré du conte King and King de Linda Dehan et Stern Nijland, mis en vers par Zoltan Tsehi. À trois collines d'or d'ici, par-delà trois monts d'argent, là où le cochon sauvage fouaille et retourne la terre, vivent un prince et sa mère, sans oublier le chat de la cour. Ils vivent ainsi tous les trois. Je l'écris comme je le dis. Ils vivent ainsi tous les trois. La reine mère est âgée. Du trône, elle s'est lassée. La retraite, ce serait bien mieux, ne cesse-t-elle de répéter. Prendre soin de moi, vivre selon mes choix, ce serait vraiment le bonheur. Je l'écris comme je le dis. Ce serait vraiment le bonheur. La reine ne perd pas son temps à philosopher dans le vide. Elle tire de son grand lit son fils, le beau prince endormi. Vas-tu cesser de paresser ? Il est temps que tu te maries et que tu montes sur le trône. Je l'écris comme je le dis. Il est temps de monter sur le trône. Sa noble mère lui ordonne de se décider sur le champ. Le pauvre est tétanisé, naissant là ses tartines beurrées. Mais la dure voix de sa mère lui répète que son rang l'exige et qu'il n'a pas d'autre choix. Je l'écris comme je le dis. Il n'a pas d'autre choix. Tous les princes à la ronde sont mariés depuis belle lurette. Ils gouvernent ou bien guerroient. C'est ce qu'il faudrait pour toi. Marié, tous les rois en herbe, boiteux, bossus, goûteux, tu es le seul à la traîne. Je l'écris comme je le dis, il est le seul à la traîne. Elle tempête et insiste tant et tant que le prince finit par céder. Puisqu'il le faut, il se mariera. Après tout, d'autres l'ont fait. Sa mère dresse la liste complète de toutes les princesses du pays. Et à chacune, elle téléphone. Je l'écris comme je le dis, à chacune, elle téléphone. On organise alors la grande parade des princesses. Pour l'Autriche, Sofia Soprano, elle a une voix de diva. Mais quand elle chante l'opéra, elle fait de drôles de trémolos. Je l'écris comme je le dis, elle fait de drôles de trémolos. Comme un cygne qui se meurt, elle entonne l'aria avec ardeur. Mais le prince fait la moue, content quand enfin elle finit. Si cela devait durer à cause d'elle, il n'irait plus à l'opéra. Je l'écris comme je le dis, il n'irait plus à l'opéra. Dolly arrive tout droit du Texas. C'est une jongleuse fantastique. Elle fait tourner 6 balles en l'air. Pas une seule ne tombe par terre. Mais malgré son tour de passe-passe, le prince n'arrête pas de bâiller. Je l'écris comme je le dis. Le prince n'arrête pas de bâiller. Du Groenland vient une fille aussi verte que de brindille. Elle aimerait que sa couleur puisse toucher le prince au cœur. En vain, il ne peut se résoudre à ne manger que des légumes. Je l'écris comme je le dis. À ne manger que des légumes. Une mannequin vient de Bombay, longiligne et élancée. En haute couture et avec grâce, elle attire tous les regards. Mais elle laisse le prince de glace, qui aime pourtant bien la mode. Je l'écris comme je le dis, il aime pourtant bien la mode. Des steppes hongroises jaillit la reine des cavalières, dresseuse de poulains, cuisinant le goulash pour tenter de lui plaire. Et 70 crêpes s'il le fallait. Mais le prince n'en a cure, je l'écris comme je le dis. Le pauvre prince n'en a cure. Philosophe, géologue, psychologue, médecin, tous les spécialistes en vogue, sages, ogres, mages entrent en piste. Mais le prince se sent triste. Pas d'humeur à marivauder, je l'écris comme je le dis. Pas d'humeur à marivauder. Comme un infortuné papillon, épinglé par les yeux de sa mère, le pauvre se sent empalé au beau milieu de la collection. Le maître de cérémonie fait entrer la dernière. Je l'écris comme je le dis. Il fait entrer la dernière. Cheveux tombant en boucles dorées, la princesse entre toute fière, accompagnée de son grand frère. Soudain, tout se fige. Liesse, amoureuse allégresse, c'est l'amour à la puissance 2. Je l'écris comme je le dis. C'est l'amour à la puissance 2. Mon cœur s'est embrasé. Ce sera lui, mon bien-aimé. Je ne savais pas que l'amour pouvait pousser sur ce genre d'arbre, dit le prince en rougissant. Dans une étreinte passionnée, je l'écris comme je le dis, dans une étreinte passionnée. Jamais je n'aurais espéré trouver l'amour en ces lieux. C'est comme si de miséreux je devenais millionnaire. Il ne peut en être autrement, les princes s'embrassent, Je l'écris comme je le dis, les princes s'embrassent. La princesse éclate de rire que son frère soit la vedette. Elle ne trouve rien à redire. Elle a déjà la tête ailleurs. Luma propose, la vie dispose. Elle préfère le maître de cérémonie. Je l'écris comme je le dis, elle préfère le maître de cérémonie. Les noces réjouissent tout le pays. Les deux princes se sont dit oui. Leur amour éternel retentit au pied de l'autel. Même la souris dans la crypte verse des larmes de joie. Je l'écris comme je le dis, elle verse des larmes de joie.
Bonne nuit,